Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, sur le 91 MHz si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien le 103.1 sur l'agglomération nimoise. Et puis au-delà, bien évidemment, www.fmplus.org. Vous pourrez retrouver bientôt le nouveau site qui vous permettra, ma foi, de découvrir tout ce que nous avons à vous offrir. Voilà, on se retrouve après la pause de l'été pour une nouvelle saison avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Voilà, une nouvelle saison avec des nouvelles découvertes. Comment dire, on va parler du cœur cette fois-ci. C'est pas qu'avant on avait moins de cœur, mais cette fois-ci c'est le cœur qui est le centre du tout. Et nous allons le voir, c'est tous ces mots que tout le monde connaît. J'entendais hier encore une émission qui était passée à la télévision sur Francis Cabrel où il chantait « Je l'aime à mourir » et oui, « Amour impossible, coup de cœur, sans amour, poème d'amour, lettre d'amour, rencontre d'amour, mots d'amour, poésie d'amour, chanson d'amour, chagrin d'amour, déclaration d'amour, amour propre, chanson d'amour, amour infini, amour fou, histoire d'amour ». Vous voyez, tellement de déclinaisons, et justement, c'est de cela dont il va s'agir. Oh là là, je vois que les vacances sont passées par là, hein. C'est de cela dont nous allons traiter pendant cette nouvelle saison que nous démarrons avec Michel Théron, puisqu'il s'agit de parler des méandres de l'amour, Eros et Agapé, donc livre écrit par Michel Théron et paru aux éditions Dervy. Et l'amour est multiple, c'est ce que vous dites dans la préface, l'amour est multiple et divers, tout le monde en conviendra, mais surtout ces différents aspects ne doivent pas être radicalement opposés. Et c'est ce que vous allez nous présenter. D'abord, un avant-propos, avant de se lancer complètement dans les émissions, on va faire une petite entrée en matière.
Voilà, donc nous allons parler principalement de l'avant-propos de ce livre qui est paru l'année dernière aux éditions Dervy, comme vous l'avez dit. Vous avez parlé du cœur, on pourra parler du corps aussi, hein, parce que bon, il ne faut pas avoir une vision éthérée et trop spiritualisée de l'amour. C'est quelque chose de très très vague. On pourrait dire de l'amour ce que Paul Valéry disait de la poésie. La plupart des gens se font une idée si vague de la poésie qu'ils se prennent ce vague même comme l'essence de la poésie, si vous voulez. Hein. Et un homme comme La Rochefoucauld, grand connaisseur du cœur humain, hein, disait « La plupart des gens ne connaîtraient pas l'amour, ne seraient jamais amoureux s'ils n'en avaient pas entendu parler. » S'ils n'avaient pas entendu parler de l'amour, vous voyez. Donc c'est un mot valise, en quelque sorte, qui a un très grand nombre de sens. Par exemple, ce n'est pas la même chose que d'aimer une personne et d'aimer le chocolat, hein. Bon. Alors l'anglais oppose bien deux mots, hein, deux verbes, to love, qui est le sens fort du mot, et to like, qui est le sens plus faible. Tous les utilisateurs de Facebook connaissent le like, like, dislike, etc. Bon, dislike a été abandonné maintenant, hein, pouce levé, pouce baissé. Bon, traditionnellement, love est plus fort que like. Traditionnellement, maintenant, je ne suis pas angliciste, hein. Les anglicistes peuvent me corriger. Alors, le français, malheureusement, ne fait pas cette opposition que fait l'anglais, hein. Le dictionnaire Littré a 12 entrées, donc 12 sens différents au mot aimer. Et le dictionnaire du Grand Robert a 2 entrées différentes qui correspondent aux 2 sens de l'anglais, subdivisés en 4 et 3 sous-entrées, qui elles-mêmes se subdivisent à leur tour en différents sens spécifiques. Vous voyez, donc ça fait comme une mise en abîme, en quelque sorte. La rubrique « aimer » est très développée dans tous les dictionnaires, ce qui montre justement la polysémie du terme. Autrement dit, le même mot désigne un très grand nombre de choses et d'états fort différents les uns des autres. Il est donc nécessaire de les préciser. Alors j'ai essayé dans ce livre de distinguer entre eux, mais j'ai vu aussi que le même mot pouvant cumuler des sens ainsi différents et étroitement imbriqués les uns dans les autres, J'ai vu qu'il était difficile de traiter le thème qui m'occupe, ici le sentiment amoureux, sans en négligeant son côté confus et comme opaque à lui-même. Et c'est pour rendre compte de ces mélanges, de ces transitions, de ces interférences aussi, que j'ai choisi comme titre de mon livre l'expression « méandre de l'amour ». Alors tout le monde sait ce que c'est qu'un méandre, c'est un fleuve qui serpente, et on ne sait pas trop où il va. On parle des méandres de la Loire, par exemple, fleuve paresseux qui prend tout son temps pour suivre son cours. Donc, méandre de l'amour, ça fait un peu Barbara Cartland, je ne sais pas ce que vous en pensez, Edouane, ouvrage donc à l'eau de rose, roman de gare, etc. Vous voyez, bon.
Pourtant, on emporte le vent.
Oui, voilà, ça fait penser un peu à ça, les méandres de l'amour. Mais il y a un sous-titre à ce livre, vous l'avez bien signalé, Redouane, c'est Eros et Agapé. Alors là, je me situe dans une tradition universitaire ou théologienne, si vous voulez, pour bien remettre les choses en place. Alors Eros et Agapé, finalement, sont deux pôles que j'expliquerai dans la suite de nos émissions. Le désir d'un côté et la compassion de l'autre. Voilà. Mais je crois que il faut commencer avec une très très grande prudence. Il ne faut pas se dépêcher de mettre les choses dans des cases, puisque de toute façon le langage n'est jamais sûr. Les paroles, peuvent déguiser notre pensée. On dit que l'homme est un animal qui a la parole. Zoon, logon, ekon, comme disait Aristote, un animal possédant le logos. On dit aussi que c'est un animal raisonnable, puisque logos signifie à la fois langage et raison. Animal rationale, comme on dit en latin. Bon, eh bien, ces paroles, malheureusement, parfois, sont menteuses et déguisent notre pensée. Le langage a-t-il été donné à l'homme pour exprimer sa pensée ou pour le déguiser, vous voyez? C'est pour ça que j'ai choisi comme chanson liminaire à notre entretien, la chanson de Dalida, Parole, Parole.
C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots. Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Mon seul tourment et mon unique espérance. pas déjà, je t'inventerai.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole. Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, 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 paroles. Paroles, encore des paroles. Que tu sais mon nom.
Que tu es belle.
Paroles, paroles, paroles.
Que tu es belle.
Paroles, paroles, paroles.
Que tu es belle.
Paroles, paroles. Alors, il va falloir dire des paroles là-dessus.
Oui, oui.
Michel,
oui.
Surtout parler d'amour.
Oui.
Donc, je rappelle, nous sommes en compagnie de Michel Théron, donc, suite au livre qu'il a écrit, Méandre de l'amour, Eros et Agapé. Et donc, vous avez choisi cette première chanson de Dalida qui nous rappelle des souvenirs.
Absolument. Et c'est un mini-drame qui se joue dans cette chanson, puisque l'homme est tout énamouré, comme on dit. Je crois que c'est Alain Delon, je crois, hein, qui dit il voit la femme idéale, il voit ce que Jung appelle l'anima, c'est-à-dire un archétype de la psyché masculine, hein, la femme idéale d'hier, de demain, de toujours, d'aujourd'hui, etc. Je pense aussi au film La Dolce Vita de Fellini, où lorsque Mastroianni voit Anita Ekberg dans la fontaine là de Trévis, je crois, hein, donc il dit ben tu es la femme éternelle, etc. Hein, c'est Fellini a beaucoup insisté justement sur cet archétype de la femme idéale pour, je le répète, l'inconscient masculin. Hein, donc, La Cité des Femmes, par exemple, un autre film de Fellini montre justement comment un homme peut faire ses projections. Hein. Alors, le problème, c'est que la femme, incarnée justement par la chanteuse, ici, ne croit pas du tout à ce qui lui est dit. Donc, l'homme peut être sincère ou peut être trompeur, je ne sais pas. Vous voyez, Redouane, suivant l'état émotionnel où vous trouvez, vous direz ou bien cet homme est sincère, c'est vraiment un amoureux romantique, ou bien il veut séduire cette femme en lui débitant des lieux communs, hein, des paroles qui sont kitsch. Hein, justement, je parlais des romans à l'eau de rose, hein, des romans de gare tout à l'heure. Hein. Alors, elle ne croit pas. Alors, oui.
Et je la crois. Dans le sens, c'est vrai, autant l'addiction, le texte est très bien dit, mais c'est vrai, il manque de l'émotion. Et dans l'amour, sans émotion, c'est un amour sans passion.
Oui. Alors, effectivement, on peut penser que justement, il y a une tentative de séduction au moyen de paroles qui tombe à plat, hein, qui est refusée justement par la femme qui en est l'objet. Mais on peut faire crédit aussi au personnage de l'homme qui peut-être, lui, est sincère. Vous savez, le kitsch, c'est mystérieux parce que lorsque l'on est froid, lorsque le cœur est froid, on se moque justement de toutes ces déclarations parce qu'elles sont excessives, hyperboliques, etc. Mais il nous a tous été arrivé de tomber amoureux et à ce moment-là, eh bien, on peut trouver belles ces paroles et justes. Par exemple, dans La femme d'à côté de Truffaut, à un moment, Fanny Ardant, lorsque elle est en dépression, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, hein, elle est en dépression, elle est en clinique, hein, et elle dit à Depardieu qui vient la voir, je n'écoute que des chansons d'amour, elle a un transistor à côté d'elle, hein. Ces chansons d'amour disent des choses bêtes, hein, ne me quitte pas, je suis une maison vide sans toi, sans amour on n'est rien du tout, etc. Plus elles sont bêtes, plus elles me touchent. Et d'ailleurs, dit Fanny Ardant, elles ne sont pas bêtes du tout. Hein. Voyez, parce que quand on est froid, ne me quitte pas ou je suis une maison vide sans toi peut nous faire sourire. Mais quand on est chaud, je veux dire, quand on est amoureux, quand émotionnellement parlant, la température s'est élevée, à ce moment-là, on peut trouver que c'est juste. Par exemple, dans les souffrances du jeune Werther de Goethe, eh bien Goethe nous dit que son héros en vient à aimer justement les tartines même que mange Charlotte, celle qu'il a choisi d'aimer, qu'il a aimé, vous voyez, hein. Donc, il n'est pas dégoûté par les tartines de Charlotte, hein. Et ça, c'est repris par Flaubert dans l'éducation sentimentale, hein, lorsque Frédéric dit à Madame Arnoux, vous m'avez fait découvrir le monde entier, vous m'avez fait ouvrir les yeux sur le monde, et je comprends, justement, Werther, que ne dégoûte point les tartines de Charlotte, vous voyez. Donc, c'est une énigme, le Kitsch. Alors, est-ce que ces paroles ne sont pas sincères ou est-ce qu'elles le sont? En tout cas, il y a une tragédie, parce que supposer que ces paroles soient sincères, eh bien, la froideur de la femme, hein, montre que l'amour est rarement partagé, vous voyez. Et ça, c'est... on peut aimer tout le temps, hein, mais on ne peut... c'est pas dit que l'amour soit partagé. Tenez, Redouane, je vais vous dire une chose. Si je vous dis « j'aime et je suis aimé », vous allez dire « comme il a de la chance hein ». Mais qui vous dit qu'il s'agit de la même personne? Vous voyez hein. Donc, vous voyez le langage, peut-être il y a une duplicité du langage. Hein.
Oui, c'est ce qu'on disait, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis.
Voilà. Oui.
C'est-à-dire, parfois, l'objet du désir ne répond pas à nos attentes.
Musset disait que les femmes sont comme notre ombre. Quand on les poursuit, elles nous fuient, et quand on les fuit, elles nous suivent. Voilà. Ça, c'est une devinette carambar. Hein. Je la suis, je ne la suis pas. Hein. Réponse, qui suis-je? Mon ombre. Hein, mon ombre. Parce qu'il y a un jeu de mots sur le verbe suivre et sur le verbe être. Voilà. Donc, pour résumer, nous sommes bien perplexes. Et il faut être perplexe, hein, Redouane. Je crois qu'il est nécessaire de ne rien présupposer au départ. Et cette chanson me touche personnellement parce que j'y vois tout le sujet d'un film ou d'un roman. Hein, il va vers elle le repousse, vous voyez. Hein, ils ne sont pas au même niveau, hein, et ça c'est tragique. Alors que le mot ait plusieurs sens, que le mot amour ait plusieurs sens, est une bonne chose, et je ferai volontiers l'éloge de la polysémie dans le langage. Car si chaque mot n'avait dans le langage qu'un seul sens, la communication en serait peut-être facilitée, mais l'expérience des choses en serait singulièrement appauvrie. Lorsque j'étais professeur en activité, je discutais souvent avec des collègues mathématiciens. Eh bien, pour un mathématicien, un mot n'a qu'un sens. Hein, il n'y a pas de polysémie. Hein, une droite, une surface, ou tout ce que vous voudrez, hein, a un sens et un sens unique. Et ce collègue, qui était un ami aussi, ne comprenait pas que nous soyons, nous, les littéraires, fascinés par la polysémie du langage, par le fait que le langage recouvre... Parfois une infinité de sens, au moins un très grand nombre de sens. Hein. Eh bien, je trouve que c'est un plus quand même, hein, parce que si chaque mot n'avait qu'un sens, ça serait catastrophique. Par exemple, si le mot « aimer » signifiait seulement, par exemple, « avoir du goût pour quelque chose », hein, on ne saurait pas ce que peut être l'amour humain dans sa complexité, dans sa profondeur et dans sa richesse. Alors on sait que George Orwell, dans son roman 1984, a imaginé une langue simplifiée qu'il a appelée le novlangue, où chaque mot n'a qu'un seul sens. alors effectivement, le dictionnaire va se réduire considérablement, chaque mot n'ayant qu'un sens. On fera donc des économies de papier, et donc on n'aura plus de mansuétude envers les arbres, par exemple, si vous voulez. Mais ça serait catastrophique, parce qu'une fois perdus les autres sens du mot, et pour n'en garder qu'un, on ne peut plus penser les autres sens, et donc expérimenter ce à quoi ils réfèrent. Ainsi, par exemple, si le mot « égal » signifie simplement « identique », on ne comprend pas une expression comme « tous les hommes sont égaux ». Hein, vous voyez, hein, c'est parce que l'égalité juridique est tout autre chose que l'identité physique. Vous voyez, donc si je dis, ça reviendrait à dire, la taille, par exemple, est seule déterminante, la taille d'un individu. Hein, tous les hommes sont égaux reviendrait à dire, tous les hommes ont la même taille ou tous les hommes sont roux. Ou brun, ou blond, comme vous voudrez. Et donc, ça ne serait pas une bonne chose. Et alors, Orwell nous montre bien que les cerveaux se rabotent ainsi et que l'homme devient unidimensionnel. Et l'état totalitaire gagne à cette réduction qu'il favorise. Il lui est plus facile d'asservir les gens à qui il manque la complexité verbale et sensible qui leur serait nécessaire pour résister à un embrigadement, plutôt que des gens qui seraient au contraire à même de réfléchir et à même d'hésiter sur ce qu'ils éprouvent. Je pense par exemple à la pièce d'UNESCO Rhinocéros, où le héros principal, Béranger, n'est pas sûr de ce qu'il sait, de ce qu'il sent, de ce qu'il pense, etc. Il est moite, il a les mêmes moites, si vous voulez, il hésite, hein, alors que les rhinocéros, eux, dans leur belle carapace luisante, sont sûrs d'eux-mêmes, vous voyez, hein. Prenez un autre exemple, le mot libre, Redouane. Si je dis, si libre n'a le sens que disponible, comme dans voie libre, chemin libre, etc., on ne comprend pas la liberté politique. Et tous les hommes sont libres, reviendrait à dire tous les hommes, pour reprendre le même exemple, ont la même taille, etc. Vous voyez? Donc.
Il y a aussi l'expression je suis libre. C'est-à-dire je suis disponible.
Oui. Oui,
j'ai un cœur à prendre, en quelque sorte.
Oui, je vais vous reprendre un autre thème de l'amour. Oui, mais libre, par exemple, le taxi peut dire « je suis libre ». Bon, mais ça n'a pas du tout le même sens que dans « tous les hommes sont libres ». Vous voyez, où tous les hommes doivent être libres. Ça ne veut pas dire que tous les hommes doivent être disponibles, hein. Non, ils doivent avoir chacun une marge de libre arbitre, hein, vous voyez, hein, y compris politique. Hein. Donc, quand on réduit les mots à un seul sens, hein, eh bien, on ne sait pas où on va. La catastrophe peut être justement que la polysémie disparaissant de l'esprit, on ne peut plus penser des notions compliquées. Liberté politique, égalité politique, etc. Tout ça, ça ne peut plus être pensé. Hein. Et donc, quand on n'a pas les mots pour penser. Le problème d'aujourd'hui de beaucoup de jeunes, Redouane, vous serez d'accord avec moi, c'est la pauvreté de leur vocabulaire. Hein. Mais quand il manque les mots, les notions disparaissent, vous voyez, hein. Les notions elles-mêmes. Et donc...
C'est toute l'épaisseur qui donne de la vie.
Voilà.
Contrairement à ce que disait votre ami, bon, une ligne droite, c'est une ligne droite, il n'y a pas d'émotion dans la ligne droite.
Exactement. Exactement.
Mais justement, c'est la différence entre quelque chose d'inerte et de quelque chose de vivant. Et la langue est quelque chose de vivant. Ce qui est fascinant, c'est l'humour. Je reviens d'un petit séjour en Suisse, où des Suisses alémaniques se racontaient des histoires. On m'a traduit, eux, se bidonnaient, comme on dit vulgairement. Et moi, ça m'a pas fait rire. Parce que le poids des mots n'avaient pas le même sens.
Oui.
Et le jeu des mots, le non-dit aussi. Parce que quand on dit effectivement « je suis un homme libre », ça dépend qui on le dit.
Voilà. C'est pas le taxi qui est libre. Je suis un homme libre, ça c'est sûr. Hein. Effectivement. Non, ce charmant collègue, là, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui, il comprenait pas justement que chez nous, un mot puisse avoir plusieurs sens. Hein. Pour eux, effectivement, dans un énoncé de mathématiques, Étant donné les définitions préliminaires, les mots n'ont qu'un sens. Hein.
Mais oui, peut-être. Mais par exemple, la science vient contredire la science. Pendant très longtemps, on nous apprend, jusqu'à un certain niveau d'études, que le chemin le plus court d'un point à l'autre, c'est la droite. Et puis, dès qu'on passe à un autre stade, on sait que c'est pas la droite, c'est la courbe.
Oui.
Sinon, les avions n'arriveraient jamais à destination.
Et
du coup, en fait, les notions elles-mêmes ne doivent pas être prisonnières d'une seule définition.
Tout à fait. Les trains vont en ligne droite, mais enfin, étant donné la rotondité de la Terre, il faut bien que quelque part ils soient tordus, les trains. D'une certaine façon, vous voyez. Oui, il faut de l'humour, Edouane, hein, et l'humour préférera toujours le complexe au simple, hein, et je pense qu'alors là, nous gagnons de mieux nous connaître. Alors, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » ? Est-ce que ça veut dire « j'ai besoin de toi » ? C'est un sens. Est-ce que ça veut dire « je veux te rendre heureux » ou « heureuse » ? C'est un autre sens, très différent. Ou bien tous les deux, à la fois. Ou bien encore autre chose. Hein. Il faut donc poser ces questions, au lieu de répéter des formules toutes faites, comme des mantras, hein, qui font de nous des perroquets, sujets au psittacisme, du grec psittakos perroquet, nous bavardons. Hein. Et ces simplifications causent la plupart du temps, quand elles ne sont ni fouillées ni creusées, beaucoup de malentendus entre les êtres. Et ces malentendus peuvent se terminer de façon catastrophique. Alors j'ai choisi comme deuxième chanson la chanson de Gainsbourg et de Birkin, « Je t'aime, moi non plus ».
Thank you. peut